Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jacques Aristide avec vous, bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce jeudi 26 mars 2020, une émission préenregistrée en télétravail en raison du Covid-19. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a été kidnappé, le gouvernement dit faire des efforts pour le retrouver. Le Mali qui instaure un couvre-feu pour lutter contre le coronavirus, mais qui maintient les législatives comme prévu ce dimanche.
L'état d'urgence sanitaire est décrété. Un couvre-feu est également décrété. Il sera rigoureusement appliqué de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre.
Washington condamne les violences liées au référendum constitutionnel en Guinée et critique le pouvoir de Conakry. Le Sénat américain approuve un plan de 2000 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine asphyxiée par la pandémie de coronavirus. Un vote est maintenant prévu à la Chambre des représentants. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. C'est un enlèvement d'une personnalité nationale sans précédent au Mali. Le leader de l'opposition du pays, Soumaïla Cissé, disparu depuis hier alors qu'il était en campagne électorale, a été kidnappé en compagnie de deux membres de son entourage. Le gouvernement affirme que toutes les dispositions pratiques sont prises pour le retrouver. Les États-Unis ont condamné les violences liées au référendum constitutionnel tenu dimanche dernier en Guinée. Une trentaine de personnes ont été tuées, selon l'opposition, alors que le pouvoir parle de 6 victimes. Abdourahmane Dia.
Les États-Unis, à travers un communiqué de leur ambassade à Conakry, expriment leur vive inquiétude et ont condamné toutes les exactions. Washington dit partager les préoccupations internationales sur l'organisation du scrutin, la régularité des listes électorales et l'absence de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. De son côté, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a fait part de sa grande préoccupation. Le diplomate onusien condamne tous les actes de violence, l'usage excessif de la force, ainsi que les violences à connotation intercommunautaire à Zérékorée, dans le sud du pays. La France a estimé mardi que le référendum et les législatives n'étaient pas crédibles. Le pouvoir n'a toujours fourni aucune indication précise sur la participation ou l'annonce des résultats. Le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé, a cependant assuré que l'immense majorité des Guinéens avaient pu voter dans la discipline, la sérénité et la quiétude totale.
Coronavirus en Afrique, le continent compte désormais 2432 cas et 64 décès. Le Mali et la Libye ont signalé leur premier cas de Covid-19. Dans ces deux pays, la guerre renforce les inquiétudes sur les limites des systèmes sanitaires. Claire Morin-Gibourg.
La Côte d'Ivoire a enregistré 80 cas, mais aucun décès. Le pays s'inquiète pour les conséquences économiques sur sa production de cacao. Au Nigeria, le gouvernement avertit qu'une explosion des cas était possible si les personnes infectées ne sont pas détectées rapidement. Le pays le plus peuplé d'Afrique est très vulnérable, mais n'a officiellement enregistré à ce jour que 51 infections et un décès. Pour l'UNICEF, le confinement de milliards de personnes va empêcher la vaccination de nombreux enfants, notamment en République démocratique du Congo, en Somalie ou au Soudan du Sud, qui luttent contre des épidémies de rougeole, de choléra ou de polio en même temps que le coronavirus. En Tunisie, 150 personnes, des ouvrières pour la plupart, se sont enfermées dans leur usine, avec de quoi vivre en quasi-autarcie, afin de continuer à fabriquer des masques de protection pour le personnel soignant. L'Afrique du Sud se prépare à rejoindre ce soir à minuit les 3 milliards de personnes de la planète déjà en confinement.
Ailleurs, dans l'actualité, au Malawi, le vice-président Solos Chilima a porté plainte contre le président Peter Mutharika, dont il conteste les décisions dans la crise née de l'annulation du scrutin présidentiel de l'an dernier. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu en mai de l'année dernière, dès le premier tour, devant le chef de l'opposition, Lazarus Chabrika. En désaccord avec le président sortant, Solos Chilima était arrivé à la troisième place du scrutin. Mais la Cour constitutionnelle a annulé la victoire de Peter Mutharika en raison de fraude et a ordonné une nouvelle élection programmée le 2 juillet prochain. La bataille a fait rage depuis des mois entre l'opposition et le chef de l'État qui a refusé de promulguer les lois nécessaires à la tenue du nouveau scrutin et de démettre les membres actuels de la commission électorale ainsi que le demander la Cour constitutionnelle dans son arrêt historique. Au Mozambique, un groupe djihadiste qui a attaqué deux villes du nord du pays cette semaine a publié une vidéo revendiquant ses opérations, sa première communication officielle en 2 ans et demi depuis qu'il sème la terreur dans la région. Lundi, des insurgés islamistes ont occupé toute la journée la ville de Mosimboa da Praia où ils ont détruit des bâtiments officiels, des banques et des installations militaires. Hier, ils sont entrés dans Kisanga où ils ont pris le contrôle du quartier général de la police. En Algérie, le verdict du procès visant Lakhdar Bourega, personnalité emblématique de la contestation dans le pays et vétéran de la guerre d'indépendance, a été renvoyé au 2 avril prochain, sans explication. Lakhdar Bourega, 86 ans, devait connaître la sentence ce jeudi, le parquet ayant requis le 12 mars une peine d'un an de prison ferme pour atteinte à corps constitué. L'ancien commandant de l'armée de libération nationale avait été arrêté à son domicile algérois en juin dernier après avoir ouvertement critiqué l'ex-chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Toujours en Algérie, un journaliste indépendant, Khaled Drarini, a été placé sous mandat de dépôt hier après l'annulation de son contrôle judiciaire par la chambre d'accusation de la Cour d'Alger. Correspondant en Algérie de l'ONG Reporters sans frontières, le journaliste avait été arrêté le samedi 7 mars dernier alors qu'il couvrait un début de manifestation anti-régime à Alger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 3 milliards de personnes sont appelées à rester confinées chez elles pour éviter la propagation du coronavirus qui a fait plus de 21 000 morts dans le monde. Le point avec Nathalie Barge.
Plus de 480 000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 182 pays, dont au moins 250 000 en Europe où les pays les plus touchés, l'Italie et l'Espagne ont enregistré respectivement 7 503 et 4 088 décès. La France, qui a enregistré 1 331 décès, a mobilisé les forces armées pour aider la population. Des patients gravement atteints ont été évacués ce matin en TGV médicalisés vers des hôpitaux de l'ouest du pays. La Russie suspend tous ses vols internationaux à partir de 21h GMT. Moscou ferme à partir de samedi tous les restaurants et commerces non essentiels. Les plus de 65 ans ont interdiction de sortir de chez eux. Et en Chine, les compagnies aériennes ne pourront effectuer qu'une liaison internationale par semaine à partir de dimanche.
Ici aux États-Unis, le nombre de morts dues au coronavirus a bondi à 1031 ce mercredi et le pays compte 68 572 cas confirmés d'après l'université Johns Hopkins. Les précisions avec Ekiabadou.
Les États-Unis arrivent au troisième rang pour le nombre de cas confirmés derrière l'Italie et la Chine. Le nombre de personnes contaminées est sans doute supérieur. L'État de New York est l'un parmi les plus touchés, avec 280 morts dans la mégalopole depuis l'apparition de l'épidémie fin décembre en Chine. Jerome Powell, patron de la Banque centrale américaine, a promis jeudi que son institution allait continuer à prêter de l'argent agressivement pour combattre l'impact économique de l'épidémie de COVID-19. La Fed a déjà baissé ses taux à 2 reprises pour les amener à tout près de 0%. La Banque centrale participe aussi au gigantesque plan de relance de plus de 2 000 milliards de dollars voté hier par le Sénat et qui doit être présenté demain à la Chambre basse avant d'être remis au président Trump qui a promis de le signer immédiatement.
Toujours aux États-Unis, la pandémie de nouveau coronavirus a fait exploser les demandes hebdomadaires d'allocations chômage avec plus de 3 millions de personnes supplémentaires qui ont demandé à en bénéficier la semaine écoulée. Un record historique a indiqué le département du travail ce jeudi. Ce sont ainsi 3,3 millions de personnes qui ont fait une première demande d'allocation chômage au cours de la semaine du 15 au 21 mars, soit 3 millions de plus que la semaine précédente qui avait enregistré 282 000 nouvelles demandes. En Irak, de nouvelles roquettes ont visé ce jeudi les intérêts étrangers dans le pays, alors que de plus en plus de nations retirent leurs troupes du territoire irakien par crainte du nouveau coronavirus, mais aussi pour prêter main forte à la lutte contre la pandémie sur leur propre sol. Fin 2017, l'Irak déclarait la victoire sur le groupe État islamique qui a tenu un temps un tiers du territoire national. Depuis, la coalition anti-EI emmenée par Washington, dont l'appui aérien, les instructeurs et les forces spéciales ont déjà été cruciaux, ne cessaient d'affirmer qu'elle allait retirer les troupes. C'est aujourd'hui chose faite avec 2500 instructeurs, soit un tiers de la coalition partie ou sur le départ et la suspension des entraînements dus au coronavirus. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nanit Talani.
La filière évéhicole en Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, va perdre chaque mois 60 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en raison du coronavirus. Aujourd'hui, nos clients en Asie, en Europe et en Amérique sont fermés. Il va en résulter progressivement un ralentissement de l'activité de transformation du caoutchouc naturel, voire son arrêt, a annoncé jeudi à l'AFP Eugène Crumien, président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Le Kenya prévoit de libérer 49 milliards de shillings aux fournisseurs pour les factures impayées et d'accélérer le paiement aux entreprises de près de 10 milliards de shillings de remboursement de la TVA dans 2 ou 3 mois selon Reuters. La Banque centrale kényane a déjà réduit les taux d'intérêt et le montant des liquidités que les banques doivent détenir comme réserve. Elle permet aussi aux emprunteurs de restructurer leurs prêts s'ils rencontrent des difficultés en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour terminer, la propagation du coronavirus en Afrique subsaharienne affectera sévèrement la croissance économique de la région, a déclaré le Fonds monétaire international. Selon l'institution, la fermeture des frontières et la limitation des rassemblements publics mettront fin à de nombreux emplois rémunérés, au voyage et au tourisme. La demande mondiale va chuter, perturbant davantage les chaînes d'approvisionnement et le commerce. Par ailleurs, le resserrement des conditions financières mondiales risque de limiter l'accès au financement et de retarder les investissements et les projets de développement.
Et maintenant pour les sports, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous faisons la part belle au message du président de la Confédération africaine de football face à la propagation du coronavirus. Ahmad Ahmad a apporté son soutien à la lutte contre cette pandémie à travers un message publié sur le site de la CAF. Ahmad Ahmad.
Ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du Covid-19 a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique, de plus en plus de confinements et de fermetures sont constatés dans nos associations membres.
D'après le président de la CAF, bien qu'étant une organisation de football, l'un des objectifs de son institution est de participer à la lutte contre les fléaux qui menacent le continent et l'humanité.
C'est dans cette optique que nous avons pris des décisions importantes pour limiter les risques et la propagation du virus. En suspendant toutes les compétitions, dont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et le Championnat d'Afrique des Nations Total prévu du 4 au 25 avril 2020. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été invité à travailler à domicile et jusqu'à la fin du mois de mars au minimum.
Ces mesures visent à privilégier la santé des différents acteurs du ballon rond, selon le malgache.
Je sais la déception des millions de supporters africains, mais protéger la santé des joueurs, des officiels, partenaires et surtout des publics est la priorité. Nous continuons de suivre attentivement la situation avec l'OMS, la FIFA, les autres confédérations même, les gouvernements et l'ensemble de nos autres partenaires dans le monde.
De nombreux stars du football ont lancé la campagne hashtag Safe Hands pour apporter leur pierre à la lutte contre ce fléau et le président de la CAF se dit solidaire de cette initiative.
Je tiens à remercier les légendes et les personnalités du football africain pour la campagne Safe Hands. Ce simple geste sauve des vies et peut aussi sauver la vôtre. Prenez soin de vos proches et restons unis face à la crise.
Ahmad Ahmad, président de la CAF.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à la tranche magazine. Nous vous parlions un peu plus tôt de l'enlèvement du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie et candidat à maintes reprises à la présidentielle, a été kidnappé alors qu'il faisait campagne en vue des législatives prévues ce dimanche. Un scrutin maintenu par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, malgré la pandémie de coronavirus et la crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. Reportage.
Face à la maladie de coronavirus, le Mali change le fusil d'épaule. En adoptant de nouvelles mesures, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République.
En plus de l'état d'urgence qui prévaut dans notre pays, en raison du contexte sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire est décrété. Un couvre-feu est également décrété, qui sera rigoureusement appliqué de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Et ce, à compter de ce jeudi 26 mars 2020, 0h. Les frontières terrestres du Mali seront fermées, sauf au fret et transport de marchandises, en particulier les denrées de première nécessité.
Le président Ibeka a insisté lors de son discours à la nation sur le maintien des législatives dont le premier tour est prévu le dimanche prochain.
Les élections législatives émanent de la décision du dialogue national inclusif qui en avait, rappelez-vous, fixé les échéances. Ces élections se tiendront le 29 mars, c'est-à-dire ce dimanche, et ce, dans le respect scrupuleux des mesures barrières.
Pour ceux qui aident la prise en charge des deux cas déclarés au Mali, au niveau de l'hôpital du Point G, le professeur Soungalo Daou s'active.
Il va rentrer par la porte qui est réservée pour les malades, il y a ce qui est bien défini. Le personnel médical va aller s'habiller dans la salle d'habillage. Il va venir l'examiner, l'écouter et ensuite aller l'installer en observation et on commence les traitements.
À Kaye, où se trouve le second cas, des dispositions ont été prises au niveau de l'hôpital. Toumani Koumaré, directeur de l'hôpital Fousseyni Ndao de Kaye.
Là-dessus encore, son état est très satisfaisant. Les malades en question n'est pas dans un besoin de respirateur. Pour l'état où il est, il n'a pas besoin de respirateur. Son état n'est pas compliqué. La prise en charge du malade en question est assurée conformément aux procédures édictées par le département de la santé, c'est-à-dire que sa prise en charge est totalement assurée par l'hôpital aux frais de l'État malien.
Pour faire face à cette maladie, le ministère de la Santé et des Affaires sociales n'a pas oublié les agents de santé.
Au lieu de cet appareil, nous avons rendu disponible tout ce qu'il faut pour la prise en charge des patients, à commencer d'abord par le dispositif de sécurisation des personnes hospitalières qui doivent porter des combinaisons pour accéder aux malades, les apporter des soins, les donner à manger, et également tous les appareils de dernière génération qui permettent de suivre les paramètres des malades, voir est-ce qu'ils ont un taux d'hémoglobine suffisant, est-ce qu'ils ont l'oxygène suffisamment dans le sang.
Il faut signaler que ce matin, deux nouveaux cas ont été identifiés, dont une femme de 59 ans arrivée de la France le 17 janvier dernier et ayant transité par Ouagadougou, et un homme de 42 ans n'ayant pas quitté le territoire malien, ce qui porte à 4 le nombre de cas au Mali, dont 3 importés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Abidjan et Bouaké, les deux principales agglomérations de Côte d'Ivoire, se sont transformées en villes mortes dès le début mardi dernier à 21h du couvre-feu décrété la veille pour lutter contre la propagation du coronavirus. Aucune circulation, rue déserte, commerce fermé, les Ivoiriens ont renoncé à sortir, sans doute aussi découragés par une pluie battante dans les deux villes réputées pour leur vie nocturne. De Bouaké, le reportage de notre correspondante Aïcha Diarra.
À ce jour, il y a 80 cas déclarés positifs au coronavirus en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont renforcé les mesures pour empêcher la propagation. Le président Alassane Ouattara a annoncé lundi dernier la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Cette discipline permettra à ces mesures de donner de bons résultats, toujours selon le président Alassane Ouattara, lors de son adresse face à la nation.
Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention.
En conséquence, le ministre de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, a annoncé mercredi dernier que la ville d'Abidjan sera isolée du reste du pays à compter de ce jeudi 26 mars 2020 à minuit, tout en précisant que les déplacements intercommunaux resteront autorisés. De son côté, le ministre de la Santé ivoirien, Aka Ouélé, a annoncé qu'un traitement à la chloroquine contre le COVID-19 n'est pas exclu. Un point de vue qui est appuyé par le professeur Armand Angéli Kofi, professeur agrégé de pharmacie, à condition qu'il soit administré sous contrôle médical, dans un reportage sur la première chaîne ivoirienne.
Le problème de l'hydroxychloroquine, ce sont les effets secondaires. Donc il faudrait que l'hydroxychloroquine soit prise sous prescription médicale. Cela veut dire que les doses doivent être maîtrisées, les doses doivent être adaptées et donc au patient en termes de son âge, et puis le patient doit être suivi pour faire face à tous les effets secondaires qu'on pourrait constater sur le patient.
Dans l'ensemble, la population ivoirienne prend de plus en plus conscience du sérieux et de la gravité de cette pandémie. Un changement dans les habitudes est observé et par prudence, on ne serre plus les mains, on ne se fait plus d'accolades et de plus en plus, on vit cantonné chez soi par peur du virus. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Dans la lutte contre le COVID-19, la bonne gestion des détresses respiratoires développée par les malades est une des étapes cruciales pour garantir la survie des patients. D'après le docteur Louré Arouna, réanimateur anesthésiste au Burkina Faso, la cinquantaine de spécialistes en réanimation que compte le pays ne sont pas suffisamment associés à la gestion de la pandémie sur le territoire. Ces propos sont recueillis par Arzuma Compaoré. Nous écoutons le docteur Louré.
Je trouve que le comité de gestion de la crise du coronavirus au Burkina Faso n'a pas assez impliqué les médecins anesthésistes et réanimateurs, notamment dans la prise en charge des cas graves. Je sais également que la société savante a marqué son accord et sa disponibilité à mobiliser les médecins anesthésistes et réanimateurs dans la gestion notamment des cas graves qui se présenteront éventuellement à nous. Cependant, le peu de ressources que nous savons tous au Burkina Faso que nous n'avons pas assez de matériel pour la gestion, comment c'est géré? C'est la grosse question. Quand nous prenons par exemple des CHR qui ont des matériels de ventilateurs mécaniques ou d'autres matériels qui ne sont pas utilisés, aujourd'hui nous devons quasiment déclarer l'état d'urgence sanitaire de telle sorte qu'on puisse remobiliser ce matériel et les renvoyer dans les centres qui en ont besoin pour aider surtout pour la prise en charge de ces cas graves de coronavirus qui se présentent déjà à nous. Pour nous aujourd'hui, tout cas de détresse respiratoire fébrile non étiqueté doit être considéré comme un cas de coronavirus et être traité comme tel. Parce que l'inquiétude qu'il y a derrière ça, c'est que le malade passe d'un hôpital à un hôpital et augmente la chaîne de contamination. Donc aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait une organisation, une communication exacte sur ces cas-là. Si je suis chez moi ou je suis dans une autre structure, j'ai un cas de détresse respiratoire fébrile, où je vais exactement pour la prise en charge. Parce que si un malade part dans une autre structure qui n'est pas adaptée dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le matériel de protection contre le coronavirus, l'inquiétude majeure, c'est de contaminer ces agents. Et aujourd'hui, on sait que le Burkina Faso est assez pauvre en ressources humaines, surtout dans cette période de crise. Imaginez-vous toute une équipe mise en confinement pendant 14 jours. Qu'est-ce qu'on perd? On perd énormément. Et si par hasard l'un d'entre eux tombe encore malade, c'est au-delà de 14 jours, ça va quasiment à un mois. Donc nous devons avoir une communication exacte et précise pour éviter les plaintes déjà des citoyens. Si j'ai un cas de détresse respiratoire fébrile, qu'est-ce que je fais? Que ce soit le corona ou pas, il faut qu'on puisse communiquer exactement sur ça pour que les uns et les autres puissent savoir quoi faire.
Le réanimateur anesthésiste burkinabé Louré Arouna était en ligne de Ouagadougou. En Afrique du Sud, deux personnes atteintes du nouveau coronavirus ont été inculpées de tentatives de meurtre pour ne pas avoir respecté leur quarantaine de 2 semaines. L'épidémie de Covid-19 se propage très rapidement dans le pays, qui est d'ailleurs le plus touché sur le continent africain. Hier, 709 cas confirmés ont été répertoriés. Le pays entre en confinement ce soir à minuit pour 3 semaines. Pour une large partie de la population qui vit dans des quartiers surpeuplés, surpeuplé et insalubre et survit au jour le jour. C'est l'inquiétude. Beaucoup se demandent comment ils vont pouvoir nourrir leur famille sans travailler pendant 3 semaines. Depuis Johannesburg, le reportage de Patricia Huon.
Dans les rues d'Alexandra, un des plus anciens townships de Johannesburg, les rires d'enfants qui jouent au football percent encore dans les rues cet après-midi. Des adultes discutent sur le pas de leur porte. Un mot se répète dans les conversations. Corona, comme une tempête dont on ne sentirait pas encore le vent souffler, mais qu'on sait arriver. Ce soir, à minuit, l'Afrique du Sud entre en confinement strict pour une durée minimum de 3 semaines afin de tenter d'empêcher la propagation du virus. Refilwe Mosiane, une femme de ménage, mère de 2 enfants, s'inquiète.
Je n'ai pas le choix. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas travailler, donc je dois rester chez moi. Ça veut dire que je ne vais pas être payée. Et puis pour ma santé aussi, je ne sais pas si je risque d'être contaminée. Tout ça, ça me rend anxieuse.
Seuls les magasins d'alimentation et les pharmacies seront ouverts. Seules les professions jugées essentielles, comme le personnel médical, de sécurité, les employés des télécommunications, seront autorisés à se rendre au travail. L'armée a été déployée pour faire respecter le mot d'ordre. Don Stein, un entrepreneur, vit à Westdene, un quartier de Johannesburg, habité principalement par la classe moyenne.
Quand on voit tous les pays qui sont touchés, et dans les pays qui ont mis du temps à prendre cette décision, le nombre de cas, le nombre de morts, c'est énorme. C'est pour ça que je pense que le président a pris la bonne décision avec ce confinement. Les magasins d'alimentation resteront ouverts, on pourra acheter à manger si besoin. Cela va bien sûr avoir un impact sur l'économie. Beaucoup de petits commerces vont souffrir. Mais le président a annoncé des mesures pour les soutenir pendant cette crise. J'espère que cela limitera l'impact.
Mais pour plusieurs millions de Sud-Africains qui travaillent dans le secteur informel et gagnent leur vie au jour le jour, sans possibilité de faire des économies, le confinement sera difficile à tenir. Pour eux, un jour sans sortir pourrait vite devenir un jour sans manger. À Clipton, un quartier de Soweto au sud de Johannesburg, certains sont en colère, comme cet homme qui répare des téléphones portables dans la rue.
Comment je vais survivre? Notre président a dit que tout le monde doit rester à la maison. Ça veut dire que je ne peux pas travailler et gagner de quoi nourrir ma famille. Ils n'ont pas pensé à nous. Ici, partout, les gens se plaignent. Il y en a peut-être qui vont manifester. Si c'est le cas, je me joindrai à eux.
Le président Cyril Ramaphosa n'avait pas le choix. Il devait agir vite. Il a fait un pari risqué. Pour des millions de personnes en Afrique du Sud, le confinement risque de ne simplement pas être tenable et le risque de tensions sociales est élevé. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Joselle Morissin et Georges Léonard Sagneux. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voaafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. Take care, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Ton cœur t'y est dedans. Dieu te voit. El Sotorino, augmente-moi le volume. Le son n'est pas bon.
Ce que tu fais là, Dieu te voit. Tu dors. Pour toi la vie est facile, ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais oh, pendant ce temps, commérage va te tuer. Celui-là vend du son à Mozart, celle-là est mangée. Celui-là il est gigolo, tout ça pour terminer leur image. Ce que tu fais là, quand te voir.
Eric Magnacki.